Bulle d'histoire. Hein ? Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bande dessinée.
Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez sur Art District pour une nouvelle bulle d'histoire. Je suis avec un auteur que j'aime beaucoup. C'est Pierre Allary, qui est un dessinateur, qui est un scénariste. Je crois même que cet album dont nous allons parler, c'est ton premier scénario. On va se tutoyer, tant pis, on va pas se vouvoyer. Pierre, avant de commencer et de parler de Don Vega, donc l'album que tu viens de sortir aux éditions d'Argo, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, tout bêtement ?
Bonjour, déjà, oui, écoute, on va faire un petit tour rapide. Alors, je dessine des bandes dessinées depuis peut-être une vingtaine d'années maintenant. J'ai travaillé dans le dessin animé pendant une dizaine d'années. Donc voilà, j'ai été formé, j'ai fait l'école des Gobelins, puis je suis resté 10 ans chez Disney à Montreuil. De fait, j'ai commencé la bande dessinée en parallèle, et depuis, j'ai arrêté l'animation, parce que déjà, les studios ont fermé, et j'ai pas vraiment souhaité continuer dans ce milieu. Moi, c'était plutôt la BD. J'ai enchaîné quelques séries, dont peut-être celle dont les gens ont entendu parler, c'est Silas Corée.
Don Vega, ça dit quelque chose à beaucoup, beaucoup de monde, parce que c'est le nom de Zorro.
Ouais, le civil, le nom civil.
Le nom civil de Zorro. Pourquoi t'es-tu intéressé à ce héros, sachant que avant d'être une série télévisée, même des films à grand succès hollywoodien, c'est un roman qui est paru, je crois, en 1919.
Zorro cristallisait un petit peu tout ce que j'avais envie de faire à ce moment-là en termes de narration et de dessin. Je sortais de deux adaptations de romans de Sorge Chalandon, des romans qui tournaient donc autour de l'Irlande du Nord et qui se passent donc dans les années 70 en Irlande du Nord et à Paris. Et donc, j'ai quand même passé 300 pages à dessiner des personnages assis qui papotent autour d'un café et qui se regardent dans les yeux. Et j'étais très, très, très loin de ma zone de confort. Donc, j'avais un petit peu envie de retourner dans cette zone de confort, c'est-à-dire une BD un peu plus déjà populaire, entre guillemets, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de l'aventure, des choses un peu plus entraînantes, en termes de graphisme surtout. Donc voilà, je voulais me concentrer là-dessus, sur un personnage un peu plus graphique, stylisé, qui soit aussi connu. J'avais envie de travailler sur un personnage connu. Je pensais pas vraiment à une franchise, mais en tout cas, quelque chose, essayer de faire un vu par. Et ça fait pas mal d'années que je tourne autour de l'envie de faire un western sombre, un western social. Donc voilà, il y avait tout plein de choses comme ça qui se retrouvaient autour de ce personnage. Je me suis dit, pourquoi pas Zorro finalement, puisque graphiquement il est intéressant, il est tout noir, il a une cape, un masque, c'est pas Batman mais presque. Alors après, il y a eu des petits changements en cours de route, c'est-à-dire que en me documentant, j'ai découvert le personnage qui a inspiré l'auteur de Zorro, le romancier, et qui était un bandit mexicain qui s'appelait Joaquín Murrieta, et qui était aussi très intéressant, puisqu'il y avait cette envie de faire un petit pas de côté par rapport à Zorro, et donc, pourquoi pas, faire la biographie de ce personnage, Joaquín Murrieta, qui attaquait les propriétaires blancs et les tuait, et la légende dit qu'il les marquait aussi au visage de ses initiales, et c'est comme ça que l'auteur, le romancier, s'est inspiré de ce personnage pour faire son Zorro. Mais le problème, c'est que lui a très mal terminé, et de fait, j'avais aucune possibilité, si besoin était, de faire une suite. Et dans ce cas-là, l'idée du Zorro était aussi éventrée, puisque faire Zorro après Joaquín Murrieta, ça n'avait aucun sens, puisque c'était la même histoire, puisqu'à l'époque, rien n'était sûr. On aura peut-être la chance d'avoir une franchise, on aura peut-être la chance de continuer l'aventure, mais en tout cas, voilà, il y avait des ouvertures un peu plus pratiques que sur le personnage de Joaquín Murrieta.
Donc dans ton Zorro, ce qui est aussi intéressant, c'est que tu commences par planter le décor historique, parce que le personnage de Zorro s'inscrit dans l'histoire des États-Unis, et plus particulièrement dans l'histoire de la Californie, qui a un moment de son histoire où c'est pas encore un État américain, c'est plus vraiment un État mexicain. C'est une espèce d'entre-deux, une espèce de no man's land juridique.
Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est les apports de, justement, de la documentation autour de Joaquim Murrieta, puisque le personnage de Murrieta, lui, sévissait à cette époque, c'est-à-dire à l'époque, justement, dans les années 40, 1840-45, quand la ruée vers l'or battait son plein et que tous les Blancs devenaient dingues et essayaient de s'octroyer toutes les terres qui étaient encore aux Mexicains à ce moment-là. Et c'est pour ça que lui vengeait un petit peu son peuple. Et donc, je trouvais ça intéressant comme contexte historique, mais de fait, j'ai voulu garder ce contexte, mais en y replaçant le personnage de Zorro. Ça aurait été assez intéressant de creuser cette partie de l'histoire des États-Unis. Et de fait, c'est pour ça que j'ai mis ce petit préambule, pour que les gens n'aient pas à se poser trop de questions par rapport aux intentions des personnages et à leurs réflexions, et surtout pour éviter un truc qui peut vite devenir insupportable en bande dessinée, c'est d'avoir des textes explicatifs ou des dialogues explicatifs avec des personnages qui expliquent l'histoire de leur pays en se parlant entre eux, quoi. Là, ça aurait été une catastrophe.
Ce qu'il faut dire à vos auditeurs, c'est que le thème de l'or tient la place centrale dans l'histoire. Parce qu'effectivement, il y a cette fameuse ruée vers l'or. Donc, on a l'image d'une ruée vers l'or de pauvres émigrants, de pauvres gens qui vont essayer de creuser la terre, de remuer la boue des rivières. Là, on est dans une ruée vers l'or quasiment capitalistique, avec des capitalistes très sauvages qui sont là pour s'approprier les terres, qui sont là pour tuer des péons, qui sont... Voilà, c'est un monde vraiment très, très sauvage, très violent.
L'or, qui était tout nouveau à l'époque, puisqu'il y a cette fameuse histoire du premier filon, la première grosse pépite qu'on a trouvée, et le premier filon qui a tout déclenché. Et je trouvais que c'était, en effet, ça, une accroche suffisamment forte pour les motivations du méchant. À partir de là, on pouvait, encore une fois, se consacrer à l'histoire.
On va parler de Zorro, mais il y a d'autres personnages qui sont très inattendus dans cette histoire. C'est un groupe de Français, un groupe d'entrepreneurs, on va dire, de banquiers, on ne sait pas trop qui ils sont d'ailleurs, mais ce sont plutôt des financiers. Que font des Français en Californie en 1849?
Mais écoute, ça aussi, ça fait partie des choses que j'ai découvertes dans la documentation. Alors, je les ai placées là pour un peu, comment dire, j'allais pas pour la touche exotique, pour donner un peu de fond au trafic, on va dire, du méchant, et pour montrer que voilà, c'était vraiment un capitaliste dans toute sa splendeur. C'était pas juste un type qui voulait virer les Mexicains, mais il voulait aussi faire du profit dans tous les coins. Énormément d'Européens ont été tout de suite attirés. Irlandais aussi, évidemment, puisque en Irlande, c'était la grosse dépression à l'époque. C'était insupportable pour eux. Donc, dès qu'ils pouvaient s'échapper par bateau, ils en profitaient. Et du coup, ils ont tous débarqué en Amérique. Alors après, bien sûr, ils ont été échaudés, puisqu'ils ont bien compris que déjà, ils n'étaient pas chez eux, ils n'étaient pas les bienvenus non plus. Mais dans le lot, il y a eu énormément de propriétaires et de riches français qui ont eux aussi débarqué pour essayer d'en tirer profit. Voilà, ça permettait de montrer qu'on était vraiment, on avait un pied dans la grande histoire, dans la vraie histoire, quoi.
Oui, puis on a un pied, comme tu disais, dans le capitalisme un peu naissant, vraiment le capitalisme le plus violent possible, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite pour faire du profit.
C'est sans surprise non plus, mais cette création de comité, par exemple, pour voter l'indépendance de l'État, c'est génial, parce que tout est là déjà, toi. C'est les 50 types qui se sont réunis, c'est quand même tous des propriétaires. Enfin, c'était déjà les puissants, quoi. Et ils n'ont pas vraiment demandé l'autorisation ni proposer quoi que ce soit aux autres. Et de fait, je disais que la Californie, c'est le pays qui a eu le plus de changements à ce niveau-là. Il y a eu plus d'une centaine de nouvelles législations pour changer les états de droit, les lois, les choses comme ça. Et à chaque fois, ça a été toujours proposé et fait par des puissants.
Bah, c'est aussi l'histoire des États-Unis qui se sont construits comme ça, quoi.
Là, quelque part, c'est l'histoire de beaucoup de pays, puisque regarde, en Europe, les seigneurs, il y a toujours un rapport de puissant qui s'imposait, quoi. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, d'autant plus que les blancs, entre guillemets, des États-Unis, ils viennent d'Europe, quoi. Donc, ils ont carrément, ils ont un peu spolié un pays qui n'était pas le leur, quoi.
Faut qu'on parle du personnage de Zorro que tu as construit. Donc, on a tous dans la tête le personnage de la série Walt Disney, qui est plutôt un personnage, un jouisseur, un peu sympathique, courageux, rigolo, qui se moque. Voilà, il y a beaucoup de légèreté dans cette série. Toi, tu as pris, il y a peu de légèreté, on est vraiment dans un drame historique, un drame social, avec un combat contre le bien et le mal. Là, le bien est tout noir, contrairement à l'habitude. Comment t'es arrivé là, partant de cette série que tout le monde connaît, qui est plutôt drôle, d'arriver à cette vision très noire de Zorro?
Au début, je me suis demandé, parce que je trouvais ça assez intéressant, ce personnage, justement, qui est un peu léger, dans le civil, donc tout le monde se moque, et puis qui, dès qu'il met son masque, et incognito, devient une espèce de super-héros. C'est l'histoire de Zorro, donc ça a été déjà pas mal exploité. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il y avait à faire de plus avec ça. Donc comme j'étais parti sur une idée avec une base historique assez noire et assez précise, je me suis dit on va continuer dans un contexte social quoi. Et mon idée c'était aussi de faire de Zorro, d'oublier le personnage sous le masque, c'est-à-dire d'oublier le côté civil de Zorro, mais plutôt de parler du mythe en fait, d'en faire un mythe, de parler de Zorro, de la silhouette de Zorro comme d'une mythologie. Un personnage qui a existé, qui existera, qui existe, mais on ne sait pas qui est dessous. On sait juste quand il y a un problème, surgit ou débarque ce personnage masqué et de tout temps. Alors c'est pour ça que on sous-entend qu'il a pu intervenir déjà avant, qu'il interviendra peut-être encore plus tard, et sans vraiment savoir qui est en dessous. Et de fait, c'est pour ça que tous les petits paysans mexicains essayent d'enfiler le masque, puisqu'ils savent qu'à partir du moment où ils ont le masque, ils deviennent eux aussi, quelque part, une part de cette mythologie. Alors après, ce qui fait la différence, voilà, c'est le talent en termes de maniement d'épée ou de pistolet. Mais en tout cas, ils essayent ce personnage, ils font vivre ce personnage malgré tout.
Oui, parce qu'ils le font vivre, mais c'est en même temps totalement désespéré, parce que comme tu dis, ils ne sont pas des bretteurs, ils ne sont pas des escrimeurs, ils ne sont pas des tireurs, ce sont des paysans qui exploitent la terre, et la plupart le payent de leur vie, il n'y a pas de, pitié pour eux.
Le simple fait d'avoir redonné un petit peu d'espoir, même pendant une heure ou un jour, aux autres paysans du coin, leur suffit, quoi.
Il y a deux personnages qui sont très puissants dans ton histoire, c'est deux personnages de femmes, parce que évidemment c'est un monde d'hommes, hein, c'est un monde de financiers, un monde de paysans, un monde de combattants, mais il y a deux très très jolis, très beaux personnages de femmes. On va pas dire forcément qui c'est, mais comment ces femmes sont arrivées dans l'histoire, comment elles se placent par rapport à ton histoire générale. Donc il y a la femme du méchant, on va dire ça comme ça, et la mère de Zorro.
C'est vrai que la femme du méchant, elle, déjà, elle a ce rôle un peu humaniste au milieu de ce nid de requin dans lequel elle est. Et de fait aussi, on insiste un petit peu, justement, en la mettant dans cette position, sur le fait que son mari, c'est vraiment une ordure, c'est-à-dire que tout est arrangé jusqu'à son mariage, quoi. Donc lui, du coup, c'est vraiment le grand capitaliste, quoi. Et l'autre, donc la mère de Zorro, enfin de Don Vega, elle est plutôt, à la base, on va dire que c'est un personnage... dont j'avais besoin pour le récit, parce qu'il me fallait, alors on va pas tout spoiler, mais bon, il fallait une monnaie d'échange, et je trouvais intéressant ça aurait pu être le père, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais je trouvais intéressant de garder le personnage de la mère, parce que bon, voilà, c'est toujours un personnage important au niveau dramaturgie.
Donc on va pas raconter toute l'histoire, parce que c'est vraiment une histoire prenante, une belle histoire d'aventure. Juste pour parler de la technique de scénario, moi j'ai trouvé qu'il y avait évidemment, je trouve qu'il y a un peu du Fabien Nuri dans cette histoire. Qu'est-ce que tu as appris en travaillant avec Fabien Nuri, qui est bon, un peut-être le plus important scénariste de BD français.
La chose, je pense que la chose la plus importante, alors je ne sais pas si je l'ai appris avec lui, mais en tout cas il m'a conforté dans cette idée, c'est que quel que soit le scénario, tu peux tout changer en changeant les dialogues. Mais il y a eu beaucoup de travail sur les dialogues, c'est-à-dire qu'en fait, et ça c'est peut-être une des choses que j'ai apprises ou que j'ai vues avec Fabien, c'est que tu peux ne toucher à aucune case en termes de dessin, mais par contre, tu peux changer en fait tout ce qui a été dit, ou toutes les intentions, simplement en changeant les dialogues, mais en gardant les mêmes dessins. Alors après, le piège, c'est que moi j'aime bien aussi ce petit côté cynique et ironique, donc j'essaie de faire des petits dialogues, des petits échanges qui claquent, et là encore, faut pas tomber dans le piège, justement, faut pas que ça devienne une démonstration de cynisme ou d'ironie, comme on a pu voir dans certains films qu'on connaît tous bien. Alors c'est chouette la première fois, ou la troisième fois, tu vois, c'est juste des matchs de tennis, comme peut faire Tarantino des fois. Au début, il le faisait bien, et puis maintenant, c'est ça, ça devient de la démonstration, c'est-à-dire que tu as 20 minutes de dialogue qui servent à rien, juste avec des punchlines, et je voulais surtout essayer d'éviter ça aussi, de pas tomber dans le piège de l'auto-satisfaction, quoi.
Bah, voilà, je trouve ça particulièrement réussi, c'était un peu le sens de ma question, parce que notamment quasiment toute la fin, l'histoire est bouclée, hein, on sait ce qui se passe, mais je crois qu'il y a 6 ou 7 pages de fin d'une poursuite où il n'y a quasiment aucun dialogue, et effectivement on n'a pas besoin d'en savoir plus, quoi. Ce qui se passe sous nos yeux est totalement suffisant, et c'est, on est pris, voilà, c'est, on est embarqué dans cette course-poursuite où les personnages ne disent rien, c'est vraiment, ouais, vraiment réussi aussi, ça.
Il y a des dialogues des fois qui n'ont pas de réponse. Et je trouve ça intéressant, ça donne une vie en dehors de la... C'est-à-dire que la vie, c'est pas juste ce qu'il y a dans la case. Nous, quand on quitte une maison précipitamment, on dit « Attends, j'ai oublié un truc !» On sait pas ce que c'est, mais on se dit « Il faut que j'y retourne parce que, voilà, on a un réflexe de sauvegarde. » Et là, c'était un petit peu ça l'idée. Et c'est d'arriver à placer, voilà, des petits dialogues comme ça qui donnent une vie en dehors de la case.
Il faut qu'on parle aussi maintenant du dessin, parce que tu es quand même surtout, excellent scénariste, mais surtout dessinateur. Tu as choisi de raconter cette histoire avec des séquences colorées. Il y a beaucoup de jaune, il y a beaucoup d'ocre, et de temps en temps, on arrive, quand c'est la nuit notamment, à des choses très, très sombres. Il y a très peu de lumière, en fait, dans cet album. On est toujours dans du clair-obscur.
Alors ça, c'est une envie, depuis toujours, comment dire, d'éviter les ambiances neutres. Donc j'ai toujours, même quand je travaille avec un coloriste, j'ai toujours des recommandations. C'est ça, c'est de donner un ton bien précis à une séquence. De fait, sur le Silas Corée, quand on a travaillé avec Bruno Garcia, qui a fait les couleurs, toutes mes indications allaient dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est ou rouge, ou bleu, ou machin. Si c'est la nuit, on fait ça. Si c'est une nuit calme, il y a une couleur nuit calme. Mais voilà, les éclairages, tout pour éviter ces espèces d'éclairages qu'on retrouve des fois dans des BD réalistes. Une scène de jour ensoleillée où il ne se passe rien, en fait. Il n'y a aucune intention dans les couleurs. C'est juste une couleur qui remplit la page, mais qui donne aucune intention de sensation, de danger, de calme. C'est juste, voilà, la mer est bleue, le ciel est bleu. Et donc, surtout, éviter ça. Et de fait, là, en plus, on est à une époque où il n'y a pas d'électricité, donc forcément, les lumières, quand il y a une lumière, c'est des lumières, c'est des torches.
Ou la lune, la nuit.
Ou la lune, la nuit, mais c'est forcément des ambiances un peu jaunes, un peu chaudes. Après, il rentre aussi en compte le fait que c'est la première fois que je fais un album en couleur entièrement tout seul. Donc forcément j'ai mes limites. Alors c'est sûr que j'aurais aimé trouver des nuances dans mes nuits. Pareil quand je vois le travail de Bruno sur Silas Corée, parce que je regardais un peu ça comme référence, il n'y a pas une nuit qui est pareille. Il arrive à chaque nuit, il y a une nuance. Après les séquences de jour, il n'y en a pas beaucoup, mais à chaque fois j'ai essayé de leur donner une indication, c'est-à-dire qu'il y a celle où les deux personnages quittent la mine, les deux méchants quittent la mine, et on voit que c'est le coucher du soleil. Parce que il faut que la lumière serve, et les couleurs servent à donner aussi une unité de temps. Donc on est le matin, on est l'après-midi, on est le soir. Donc là, voilà, on a un coucher de soleil, donc on a une lumière rasante. Quand Zorro va à l'église, on voit que c'est une lumière qui tape. On devine qu'on est dans la matinée, puisque voilà, il y a des ombres un peu violettes, un peu froides. Enfin, toujours donner un sens aux couleurs, quoi, qu'elles aient aussi un sens narratif.
Il y a aussi une autre chose qui est particulière dans cette bande dessinée, je pense que là aussi ça a un sens narratif très important, c'est l'usage de la trame. les dessins sont... Alors, c'est pas uniforme, ça aussi, je pense qu'il y a une raison à tout ça, c'est que régulièrement les ombres ou les parties un peu même sombres ou claires sont tramées. Il y a ces petits points qui forment la trame, mais sur une même case, on peut avoir des morceaux tramés et des morceaux en aplat. Pourquoi tu as choisi cette technique d'ombre ?
À la base, c'était pour un peu retrouver ce côté pulp, toi, des vieilles BD, justement, des années 50, qui étaient entièrement tramées. Et j'avais donc envie de me faire plaisir, et aussi de me faire plaisir à avoir en main des originaux, justement, avec de la trame, des originaux à l'ancienne. Parce que, de fait, j'aurais pu tout faire à l'ordinateur, ça marchait aussi. Mais voilà, je voulais des belles pages avec du gris, avec des belles trames. Comme tu dis, le danger après, c'est que la trame, c'est du noir et blanc. Donc j'avais pris parti de mettre mes ombres, de faire un maximum d'ombre avec de la trame. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'au moment de mettre la couleur, tu te rends compte que ça peut boucher. Donc trame plus ombre en couleur, tout de suite, ça bouche un peu le personnage ou l'image. Donc du coup, j'ai quand même tripatouillé pas mal mes trames à l'ordinateur après, c'est-à-dire que j'ai enlevé des trames sur des personnages ou des séquences, notamment la séquence du chariot qui tombe dans l'eau à la fin. Ça, c'était une séquence qui était... tout le chariot était tramé, c'est la page 88, là. Tout était tramé, le premier plan, le chariot, et une fois mis en couleur, ça bouchait tout, quoi. Ça marchait pas, donc j'ai dû enlever, à l'ordinateur, j'ai enlevé toutes les trames. Reste que c'était quand même un plaisir, c'est agréable, parce que ça fait en plus, ça fait une bonne pause quand tu bosses, notamment tout seul, et que tu as 90 pages à ancrer. Une fois que j'avais terminé mon ancrage, je passais à la trame, ou même des fois pendant que j'ancrais, je faisais une pause et puis je commençais à poser mes trames. Et c'était un petit soulagement, ça. Voilà. Le seul truc, c'est que ça double le temps de travail, évidemment. Et que, comme je le dis à un moment dans la postface, la trame, c'est chouette. Au bout de 60 pages, tu commences à tirer la langue. Quand tu sais qu'il t'en reste 30 à faire encore, ça devient très long, quoi.
Ben Pierre, on s'est presque tout dit sur Don Vega. Maintenant, il ne reste plus qu'à se procurer l'album et évidemment à le lire parce que c'est un vrai bonheur.
En clic et une collecte.
Ouais, mais cet album est un vrai bonheur. C'est de l'aventure, c'est de la politique, c'est de l'histoire. Voilà, il y a des poursuites, il y a des très très beaux personnages. Donc il faut absolument lire ça. C'est publié par les éditions d'Argo. Ça fait quand même 96 pages pour le prix dérisoire de 16,50 €.
C'est vrai que pour le coup, là, il y a un bon, on a un bon rapport qualité-prix. Quantité-prix.
La page est pas chère finalement. Mais il faut toutes les lire, hein. Faut pas les acheter page par page. Donc quand cette émission passera, je ne sais pas si tout sera encore confiné, mais effectivement, les libraires indépendants peuvent le commander et le réserver. Je te remercie évidemment d'avoir passé ce moment avec moi et je te dis à très bientôt.
C'est moi, merci beaucoup. Et puis merci pour tout ça, toutes ces gentillesses. À très bientôt,
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.